1er juin 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève en ce lendemain de victoire du Canadien de Montréal face aux Maple Leafs de Toronto. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition du podcast.
Hey boy, toute une soirée hier en tout cas.
Toute une soirée. Écoute, j'avais préparé mes notes déjà pour parler du potentiel premier choix des Canadiens. Ben, on va jeter ça au vidange puis on en parlera une autre fois parce que les Canadiens, croyez-le ou non, les chers partisans, sont au deuxième tour des séries éliminatoires.
Ah, puis honnêtement, c'était la surprise. Là. On le sait, là, les Maple Leafs ont l'étiquette de choker. Puis bon, c'est jamais facile pour eux sortir du premier tour, mais tout semblait prédestiné à y parvenir cette année, surtout après notre dernier podcast. Moi, je n'y croyais plus du tout. Puis finalement, le Canadien a réussi pour la troisième fois en une vingaine d'années à revenir de l'arrière 1-3 dans une série. Donc, je lève mon chapeau à Dominique Ducharme, que j'ai critiqué ouvertement dans ses décisions. Félicitations aux Canadiens, ils ont démontré du caractère. Évidemment, félicitations à Carey Price, qui a été sensationnel là, devant son filet.
Ben écoute, le podcast s'appelle La Relève. Ben, il y a une relève chez les entraîneurs aussi. Et force est d'admettre que Dominique Ducharme, il a été vraiment sous-estimé, je trouve, par les partisans. Ben, peut-être à raison à cause des performance décevante pendant la saison. T'sais, je comprends qu'il n'a pas pris le navire et complètement renversé la tendance quand il est arrivé. Là. Je suis d'accord avec ça. Mais là, je pense que les partisans réalisent que c'est une méchante bonne tête de hockey qui a un plan. Puis quand il prend une décision, même si elle est impopulaire, il y a un rationnel derrière ça. Il y a un processus. C'est une très bonne tête de hockey, Dominique Ducharme. Mais puisqu'on aime parler des espoirs ici, on peut parler de la part des jeunes dans la série. Et Sheldon Keefe hier a dit que quand Caulfield et Kotkaniemi sont entrés dans la formation, ben, ça a changé la dynamique et les Leafs n'étaient pas prêts pour ça.
Ben, par rapport à Caulfield, ce qui est vraiment intéressant aussi, là, j'ai souvent mentionné qu'il doit améliorer son jeu défensif, doit se positionner davantage. Puis honnêtement, il a très, très bien appris à ce niveau-là, ça a été rapide. Puis là, je te vois sourire en coin, là, t'étais comme, là, t'es fier un peu de ton coup, là. Mais là, on était ailleurs, là, mm-hmm. Je pense que c'est dans le match d'hier, là. À un moment donné, Mitch Murray était sur le coin, était sur le long de la rampe. Puis Cole Caulfield a tellement bien joué avec son bâton que finalement, ça a réussi à provoquer un revirement dans la zone des Canadiens. Et là, finalement, ça a quand même mené à une chance de marquer parce qu'il y a eu un revirement d'un autre joueur. Mais vous comprenez ce que je veux dire, les gars. Cole Caulfield se place très, très bien. Et même même face aux joueurs d'élite de la LNH, j'ai le goût de dire que défensivement, il est pratiquement meilleur présentement dans la LNH qu'il l'était pratiquement dans la NCAA au mois de novembre ou décembre. C'est quand même pas rien. Là. Ça montre à quel point Cole Caulfield est tout simplement un joueur assez intelligent.
Oui, puis aussi, ce qui est intéressant à noter dans le cas de Caulfield, c'est qu'il n'a pas obtenu de lancer au filet hier. Mais malgré tout, il a été un joueur utile au Canadien.
Je suis tellement d'accord avec toi.
Donc, tu n'as pas besoin d'être un unidimensionnel marqueur pour te rendre pertinent à la formation, pour contribuer. Et Caulfield n'a pas noirci la feuille de pointage au niveau des buts, il n'a pas marqué dans cette série, mais il a été menaçant. Et le terme qui est revenu à plusieurs reprises, il a été dynamique. On le voyait quand il avait la rondelle, il amenait cette énergie et ça faisait en sorte que le Canadien, je pense, a eu un certain momentum avec ce vent de fraîcheur que Caulfield a amené dans la série. Même chose pour Kotkaniemi. Mais là, je vous pose la question, messieurs, est-ce qu'on va voir Alexander Romanov dans la deuxième ronde des séries? Parce que c'est un autre jeune à qui on ne décide pas faire confiance dans la première ronde. Moi, personnellement, ça me renverse toujours. On le sait que l'organisation tente de nous vendre que c'est parce qu'il a donné plusieurs chances de marquer à l'adversaire en fin de saison.
Non, vas-y, Tommy.
Non, mais je peux y aller. Regarde. OK, je sais, je comprends exactement c'est quoi la réflexion. T'as entré Cole Caulfield dans la formation, ça a fonctionné, t'as eu des résultats immédiats. T'as entré Jesperi Kotkaniemi dans la formation, ça a fonctionné, t'as eu des résultats immédiats. Donc, c'est très fair de se dire, ben là, on va entrer Romanov dans la formation, puis le résultat va être le même. Mais là, là-dessus, je suis pas d'accord. Je peux pas dire que je suis d'accord parce que un défenseur, c'est pas la même chose qu'un attaquant déjà quand tu entres en série. OK, on a vu ce qui s'est passé avec Rasmus Sandin des Maple Leafs. Un défenseur, si tu fais la moindre erreur, là, ça peut se transformer en catastrophe pour ton équipe. Et après, est-ce que c'est du bon développement pour toi nécessairement? Non, c'est pas nécessairement bon pour sa confiance, là, ce qui est arrivé à Rasmus Sandin. Là. Si tu vois que le joueur s'enfonce, ben, parfois c'est bon de lui donner une petite pause. Et, excuse-moi, mais Romanov n'a pas prouvé qu'il était capable d'amener son jeu à un niveau adéquat pour les séries en fin de saison. Et là, je veux juste continuer là-dessus. Il accordait beaucoup de chances de marquer. Il était éparpillé dans sa couverture en zone défensive et il faisait des présences de 2 minutes, ce qui est impardonnable en séries éliminatoires. Alors, écoute, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et là, on va me dire, ah ben là, Gustafsson n'est pas plus fiable dans son territoire. Soit, c'est vrai, c'est pas faux. Je pourrais pas argumenter là-dessus, mais on a amené Gustafsson pour 2 raisons. Sa relance et son jeu en avantage numérique. Et force est d'admettre que Gustafsson est supérieur et une coche au-dessus de Romanov dans ces deux aspects-là. Il a fait 60 points dans la LNH. Je l'aime bien la relance d'Alexander Romanov, mais c'est pas Matt Grizzlick non plus. Là. Il a quoi, 1 point à ses 30 derniers matchs? Il va pas changer la game offensivement si tu la mets dans ta formation. Et tu voulais pas y aller à échanger chance pour chance contre les Maple Leafs. C'est sûr que tu voulais un système plus hermétique, plus structuré. Fait que si tu voulais privilégier les services d'un John Merrill, alors moi, je comprends exactement ce que Duchamp m'a voulu faire. Ça m'offusque vraiment pas que Romanov ne joue pas en ce moment.
Et écoute, Nick, je sais pas si tu te rappelles, hier, il y a d'autres personnes qui, eux, étaient un peu plus choquées de voir, ouais, de voir la chose.
On a eu un bon débat au 10e. Le Marty a été le spectateur de tout ça. Là.
J'ai pratiquement fait mon Anthony Desaunier en essayant de tempérer les ardeurs, etc. Là.
C'est bon, OK. Mais honnêtement, alors je pose la question, oui ou non, est-ce qu'on va voir Alexander Romanov dans le 2e tour des séries? Disputera-t-il au moins une rencontre?
C'est pas impossible, mais comme Nick dit, le problème, c'est qu'en séries éliminatoires, tes erreurs sont exposées via x100, si tu veux. Tu peux détruire la confiance d'un jeune en le mettant dans des mauvaises situations qui mènent carrément à des buts. Pensez-y, les gars, il y a des... Je vais prendre un exemple qui n'est pas une recrue, là, mais Jake Gardiner, par exemple. Moi, j'ai toujours adoré le jeu de Jake Gardiner offensivement lorsqu'il était à Toronto. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on se rappelle de Jake Gardiner? C'est ses 2-3 erreurs lors des matchs 7 des Maple Leafs contre les Bruins. Et honnêtement, ça a complètement détruit sa réputation. Est-ce que c'est un bon défenseur, Jake Gardiner? Bon, là, moins maintenant. Là. Mais c'est quand même un défenseur qui a eu des saisons de 50 points dans la LNH. C'est un défenseur qui a apporté de l'attaque. Mais maintenant, ce qu'on retient, c'est sa capacité à ne pas performer sous pression. Donc, est-ce qu'on veut... Et je ne suis pas en train de dire qu'Alexander Romanov, ça s'en va vers ça, mais... Est-ce qu'on veut lui mettre cette étiquette-là?
Exact. Est-ce qu'on veut qu'il commence la prochaine saison et qu'il ait peur de faire des erreurs en raison de ce qui s'est passé? Moi, je veux pas que Romanov joue sur les talons quand il va arriver la saison prochaine. Là. Je veux que Romanov garde sa game. Et même que, savez-vous quoi, les gars? Oui, j'en ai beaucoup à dire sur sa couverture défensive par moment, là. Mais j'aimerais ça que Romanov même se porte plus à l'attaque qu'il le faisait. Là. Et peut-être qu'en faisant ça, il va mieux jouer défensivement, ironiquement. Là.
Mais ce que les gens, je pense, oublient peut-être un peu avec Alexander Romanov, parce que là, il a un excellent coup de patin, il transporte souvent la rondelle, donc ils se disent « Ah, il va apporter de l'attaque, c'est tout de suite lui qui va relancer. » Le problème, c'est qu'Alexander Romanov, et ça a toujours été le cas depuis que je l'ai vu jouer à 17 ans, si tu veux, c'est un défenseur qui, oui, transporte la rondelle, mais lorsqu'il arrive de l'autre côté, c'est pas un joueur qui a beaucoup de créativité. Quelqu'un qui envoie des rondelles au filet, c'est bien. Mais c'est pas un défenseur qui est capable de piloter un avantage numérique.
Absolument.
Et de créer des buts toujours, tout le temps, en avantage numérique. C'est pas ce style-là. Donc, même si tu entres Romanov au profit de Gustafsson, par exemple, ça ne va pas nécessairement se traduire en des chances de marquer et en Absolument. Jeu plus offensif. Là.
Mais tu sais, on le comparait beaucoup à Dmitri Orlov. Et je pense que la comparaison se tenait debout, mais je pense quand même que Orlov a plus de talent offensif que Romanov.
Ce sera tout de même à voir. Moi, je pense que tant mieux si le Canadien ne rentre pas Romanov dans la mêlée. Ça veut dire que Gustafsson, ça veut dire que Kulak continue à performer, donc le Canadien continue à bien jouer. Moi, je pense qu'il y aura une certaine baisse de régime à un moment ou à un autre et on pourrait peut-être faire confiance à Alexander Romanov. Ce sera à suivre dans la prochaine série contre les Jets, qui, je vous le rappelle, s'amorce demain soir à Winnipeg.
Déjà demain soir quand même, hein? Pas de répit beaucoup.
Ça, c'est un bon point. Là, le Canadien qui, si je ne m'abuse, joue mercredi, vendredi, après ça, joue dimanche et lundi. Donc, 4 matchs en très peu de temps pour la formation de Dominique Ducharme. Messieurs, on le sait, qui dit séries éliminatoires dit aussi parallèlement loterie de la Ligue nationale de hockey. Ça se passe demain soir. C'est demain qu'aura lieu le tirage pour savoir qui héritera du premier choix du prochain encamp de la LNH. Donc, ça, ce sera intéressant à surveiller. Et ce premier choix, ça pourrait bien être Owen Power, du moins c'est le cas si on se fie à la centrale de recrutement qui a dévoilé sa liste finale dans les derniers jours. Et c'est le défenseur format géant qui trône au sommet.
Ben écoute, c'est pas une surprise nécessairement. Là, on parle de celui qui a le meilleur dossier, si tu veux.
Ouais.
Tu viens de le mentionner, là, format géant, 6 pieds, 6 pouces. Il a joué dans la NCAA déjà alors qu'il n'est même pas repêché. A eu d'excellentes statistiques. Là, je ne me trompe pas, c'est 3 ou 4 points de moins que Cam York, qui a joué des matchs dans la LNH cette année. Et là, il est en train de bonifier son dossier encore plus parce que présentement, il est au championnat mondial de hockey et ça se passe quand même assez bien. Il a commencé le tournoi en tant que 7e défenseur et ça n'a pas été très long parce que le Canada a quand même eu de la difficulté dans les premiers matchs. Là, ça n'a pas été très long que le personnel entraîneur l'a placé lors d'un sur un top 4. Et comme on a mentionné, je crois que c'est la semaine dernière, il a quand même bien fait honnêtement. Il a soutenu, il a apporté des chances offensives, ça a vraiment bien été. Et bien ça, c'est tout simplement prometteur. Donc là, tu peux cocher plein de cases si tu es l'équipe qui repêche au premier rang et te dire, c'est certain que j'ai un joueur de premier plan dans la LNH. La question avec Owen Power, selon moi, là, c'est davantage, est-ce que c'est un défenseur numéro... Et je sais que dans le milieu, c'est la grande question. Là. Est-ce que c'est un défenseur numéro 1 qui va devenir un défenseur de concession pendant plusieurs années ou ça va devenir un défenseur numéro 2, ce qui n'est pas mauvais, mais qui n'est peut-être pas un défenseur que tu places dans la même catégorie que les John Carson ou les Victor Hedman ou tous ces grands défenseurs-là.
Mais le fait qu'il tire quand même son épingle du jeu au championnat mondial, c'est quand même impressionnant parce que c'est très rare que des jeunes joueurs à cet âge-là participent à l'événement et là qu'ils graduent sur les lignes et qu'ils deviennent de plus en plus importants à la formation canadienne. Bon, je le sais, la formation canadienne a énormément de difficultés cette année, donc peut-être un peu plus faible, peut-être qu'il fait en sorte que c'est pourquoi Power s'est taillé un poste aussi important au sein de la formation. Mais tout de même, il a 3 points depuis le début du tournoi. C'est un défenseur qui ne semble pas intimidé, ne semble pas... Oh, j'ai quelqu'un à la
porte. Ah, bah oui, c'est...
je vous laisse.
C'est la saison des sonnettes. Des sonnettes, là.
Ça se rue.
Je voulais t'en parler un peu. Est-ce qu'on peut pas établir un parallèle un peu avec le repêchage d'Eric Johnson, dans le sens que Eric Johnson, c'était peut-être le choix à faire au premier rang, c'était le choix le plus safe, mais est-ce que ça va être le joueur le plus game-breaker, le plus talentueux qui va être sélectionné au premier rang si c'est Owen Power?
Ouais, c'est pas une mauvaise comparaison, honnêtement, parce que je regarde les joueurs qui ont été sélectionnés par la suite, là, t'as des Niklas Backstrom, des Jonathan Toews, là.
Marc Bergevin avait même dit, t'es un peu chanceux parfois au repêchage, parce que si les Blackhawks avaient remporté la loterie cette année-là, on aurait repêché Eric Johnson, et ironiquement, on a été chanceux de pas la remporter, parce qu'en suivant notre liste, on s'est trouvé à repêcher Jonathan Toews, et ça a été le meilleur choix pour les Blackhawks, si les Hawks... Si les Hawks, mais c'est tellement drôle à dire, c'est tellement fou à dire, si les Hawks avaient remporté la loterie, ben peut-être qu'ils ne remportaient pas ces Coupes Stanley-là.
Ben non, tout à fait. Puis, parlez-en aussi aux Penguins de Pittsburgh qui ont sélectionné Jordan Staal. Jordan Staal, c'est un excellent centre dans la LNH, mais imaginez si Jonathan Toews avait joué avec Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Ça aurait été, assez destructeur et dévastateur.
Premièrement, on n'aurait jamais réussi à garder les trois dans une ère du plafond salarial. Mais...
Oui, non, ça c'est sûr et certain, là, mais on parle pour parler si on veut.
Ouais, absolument.
Mais ton point de vue est intéressant parce que oui, tu as raison, tu as Eric Johnson qui est un défenseur complet, gabarit, un bon gabarit qui jouait déjà dans un... Je pense qu'il jouait une CIA à 17 ans, je ne me trompe pas.
Ouais.
Donc, tu sais, il y avait
un bon gros CV. Défenseur aussi, là, c'est ouais. Ça.
Il y avait un bon CV et les joueurs, par la suite, c'est des joueurs qui étaient bons dans les deux sens de la patinoire. Et cette année, c'est un peu la même chose. Si tu regardes les espoirs, là, Matthew Beniers, qui joue avec les Américains au Mondial de hockey présentement, c'est un joueur qui est excessivement bon dans les deux sens de la patinoire, même chose. Puis, tu as des joueurs comme Ken Johnson n'est pas nécessairement mauvais en défense.
Là, c'est lui qui c'est là où il se démarque, par exemple, Ken Johnson des autres. Je pense qu'il y a un côté plus game-breaker que les autres que tu mentionnes.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Ben, moi, honnêtement, je l'ai plus haut dans mes listes. C'est ce que je trouve intéressant dans cette liste de la centrale-là. Là. Moi, c'est ce que j'aime voir. C'est de voir qu'il est placé troisième. On a tendance à l'oublier. On parle toujours des Power, des Luke Hughes, des Gunter, des Matthew Beniers. Puis, on parle jamais vraiment de Ken Johnson. Il est toujours un peu dans l'ombre. Puis, je peux comprendre, il n'a pas joué au championnat mondial de hockey junior. Il n'a pas eu la chance de jouer au mondial des moins de 18 ans. C'est un joueur qui jouait avec Michigan, mais il y avait Beniers, il y avait Owen Power devant lui. Toujours dans l'ombre un peu de tout le monde. Donc là, c'est bien de voir que la centrale, visiblement, a su voir à quel point il a quand même du talent. Et je vous le dis, c'est probablement le meilleur fabricant de jeu de ce repêchage-là. Il a une excellente vision de jeu. Puis comme tu dis, game breaker, là, moi, je pense que si ça se développe comme il faut, ça peut devenir un excellent joueur d'avantage numérique.
C'est ça. Je vois un peu Johnson comme le Z-Grass de cette QV-là, dans le sens que c'est peut-être pas le... Puis encore là, il est bon défensivement, mais il est peut-être pas aussi complet que les autres. Mais à long terme, c'est lui qui a les habiletés naturelles les plus élevées. Et là, on oublie ça parfois. Hein. On fait une évaluation du joueur, où il en est rendu, souvent en repêchage. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait une projection aussi.
Ben oui.
Donc, il faut tenir en compte que, et c'est pour ça qu'un gars comme Jesper Kotkaniemi avait été repêché troisième au total, c'est parce que tu faut que tu évalues l'espace qu'il y a dans sa progression. Mettons Brady Kachuk, là. Moi, j'en voyais pas beaucoup d'espace pour progresser. Je pense que tu avais pas mal le produit fini. Mais tu peux regarder un autre joueur et tu te dis, OK, là, voici son poids, voici, il pourrait prendre facilement 10-20 livres de muscle. Ah, son coup de patin, il est ordinaire, mais il domine pareil. Imagine s'il améliore son coup de patin. Fait que là, tu te dis, s'il améliore ça, ce joueur-là peut être là. Mais là, quand tu as un produit fini, que tu dis, il est déjà bon partout, il est déjà 6 pieds 2, 190 livres, il a rempli son frame, ben là, je veux dire, je trouve que c'est un peu moins sexy. Là. Oui, c'est bon d'y aller avec des valeurs sûres, mais parfois, tu peux projeter.
Et je pense aussi qu'il y a des trucs qui sont plus faciles à améliorer. Tu sais, comme, là, je vais prendre l'exemple de Ken Johnson. 6 pieds 1 pouce, 167 livres. Clairement, lui doit prendre la masse. Et pour l'avoir vu dans les matchs, il y a de la difficulté dans les coins. Il se fait brasser quand même pas mal. Là. Mais donc, ça, c'est facile à corriger. Il va seulement se faire donner un plan d'entraînement par l'équipe qui va le repêcher. Il va aller travailler ça. Et dans 3 ou 4 ans, il y a fort à parier qu'il va être d'un gabarit intéressant. Mais c'est pas mal plus difficile d'apprendre à repérer des coéquipiers, à marquer des buts, par exemple. Ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas.
Ben oui.
Et c'est ça, moi, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je regarde davantage qu'un joueur qui est trop petit parce que les joueurs sont capables de fonctionner malgré leur petite taille, mais d'autant plus que tu peux travailler au niveau de ta force physique. C'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus facile, si tu veux, et on va pas se faire de cachette, les gars. Ces joueurs-là veulent tous jouer dans la LNH. Ils vont tous être prêts à faire, à un moment donné, les efforts nécessaires dans le gymnase pour se rendre au prochain niveau. Là. C'est évident.
Mm-hmm. Ken Johnson, qui est classé 3e là, par la centrale. Honnêtement, je ne sais pas si Michigan avait quand même été éliminé du tournoi du Frozen Four à cause de la COVID. Là. Donc là, c'était peut-être une surprise de le voir aussi haut. Un joueur qui, lui... s'est vraiment démarqué au U18, malgré que Johnson, lui, n'avait pas pu y participer, c'est Mason McTavish. Lui, il avait été tout feu, tout flamme, et il avait vraiment marqué les esprits, et il se classe au deuxième rang. Ça m'a personnellement surpris, mais avec un pas de recul, je trouve que c'est mérité qu'il occupe cette position.
Mais moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé cette audace-là de la centrale, parce que ça se tient debout comme choix. Parce que Mason moi, honnêtement, j'ai tout le temps raffolé des joueurs qui ont un sens du jeu. Je pense que c'est une des qualités qui se transpose le mieux dans la LNH. Et c'est ce que McTavish m'a montré au U18. Il est capable de lire les options sur la patinoire, de découper la glace. Il a une exceptionnelle vision du jeu. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Je vois mal McTavish ne pas devenir un bon joueur dans la LNH. Là.
Moi, où j'ai de la misère à placer Mason McTavish deuxième, j'enlève bien les qualités du joueur. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui a montré dans les moments importants, là, notamment en finale du Mondial des moins de 18 ans, à quel point il pouvait être bon. Moi, ce que je vois avec le fait que Mason McTavish est placé deuxième par la centrale, j'ai toujours trouvé que la centrale avait tendance à mettre des joueurs avec des gabarits intéressants qui sont bons dans les coins un peu trop haut. Et l'exemple que je vais te donner, là, j'ai ressorti le repêchage de 2014. J'ai ressorti
je sais exactement ce que tu vas mentionner.
Je vais vous donner leur liste en Amérique du Nord. Là. Puis là, c'est sûr que là, le joueur n'avait pas fait il n'avait pas réussi à faire un chin-up dans les combines. Mais Sam Bennett, c'était le premier choix de la centrale en Amérique du Nord. Sam Bennett, là, c'était davantage un joueur qui jouait justement deux sens de la patinoire, qui n'était pas le... C'est un bon joueur, là, mais il y avait des joueurs avec plus de créativité. Leon Draisaitl, dans cette liste-là, est 4e. Puis, si je descends un peu plus, là, Jake Virtanen est 6e, Nick Ritchie est 7e, Brandon Perlini est 8e. Ça vous donne une idée, là, les joueurs que je viens de vous nommer, là, c'est tous des, à l'exception de Bennett, là, mais c'est tous des joueurs, puis je pourrais même prendre Draisaitl qui était 6 pieds 2 pouces. Là. Ils ont tendance à placer des joueurs avec des bons gabarits qui ont un bon poids.
Ben Marty, le repêchage d'après, Lawson Crouse, si je ne me trompe pas, il n'était pas dans le top 5 dans la liste nord-américaine.
Ben, il était assez haut, effectivement.
Il était assez haut, là, devant des joueurs là, beaucoup moins beaucoup plus talentueux que lui. Là. Ouais.
Mais c'est sûr que ça, c'est toujours le piège d'évaluer un joueur qui est plus mature physiquement que les autres, parce que je regarde ses chiffres avec McTavish, 6 pieds 1, 210 livres. C'est sûr que lui, en plus par son style de jeu, parce que tu fais 6 pieds 1, 210 livres, mais tu te tiens en périphérie, ça sert à rien. Lui, il fonce au filet, il drive le net, comme on dit en bon français, puis c'est quelqu'un qui se sert de son gabarit-là. Est-ce que quand les autres joueurs, quand il va arriver dans la Ligue nationale, vont être plus imposants, est-ce qu'il va devenir plus effacé parce qu'il n'aura plus cet avantage au niveau du gabarit? C'est possible, mais moi, c'est pas quelque chose que je crois qu'il va arriver dans ce joueur-là. Il me semble avoir une fougue, il veut continuellement s'améliorer et je pense que ce sera un bon joueur de hockey. Souvent, on peut voir des, et ça a été le cas, là, évidemment, Michael McCarron me vient immédiatement en tête, là, dominait dans les rangs juniors et ça a été très difficile au niveau professionnel. Je pense que McTavish, ce sera pas ça. Je pense que lui, il va continuer à progresser. Et oui, il a un gabarit qui est imposant présentement, mais il saura s'en servir à bon escient lors de l'étape suivante.
C'est pas nécessairement contre Mason McTavish. C'est davantage que si je regarde les joueurs après lui, là, Ken, il est bon, là, Mason McTavish. C'est un joueur qui utilise bien sa taille. Mais est-ce que je préfère Ken Johnson? Ken Johnson, Luke Hughes, Dylan Gunter, Matthew Beniers et Brent Clark, là, je pense que ce sont tous des joueurs qui ont des qualités des potentiels à vedette dans la LNH, là, des qualités qui sont supérieures à Mason McTavish. Je comprends la centrale, puis ça se peut que ça fonctionne, mais moi, je trouve seulement que les joueurs qui sont après McTavish ont des qualités offensives un peu plus impressionnantes qui, selon moi, ne justifient pas nécessairement le fait de placer McTavish deuxième. Mais comme je vous dis, la centrale a tendance à placer ces joueurs de gros gabarit-là un peu plus haut que ce qu'il devrait.
Tu viens de le mentionner rapidement, Marty. Brent Clark est classé au 7e rang. Bon, on le sait, sur ce podcast, on en a quand même parlé à plusieurs occasions. Tu le vois au premier échelon, il est 7e. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit repêché à ce rang-là ou tu penses qu'une équipe va avoir un reach, là, entre guillemets, pour le ramasser un peu plus haut? Là?
Ben,
on s'entend, le reach, là, c'est très, très imagé. Là.
Par rapport à la liste. Là, c'est
ça exact, par rapport à la liste, exactement.
Oui, parce que c'est par rapport à la liste, parce que c'est comme je le répète souvent depuis quelques mois, là, le repêchage 2021, c'est le repêchage probablement le plus imprévisible des dernières années. Owen Power est classé premier, là, il pourrait sortir 5e, puis et Brent Clark est classé 7e, puis il pourrait sortir premier.
Exactement.
Il y a un bassin de 8 ou 9 joueurs, et même je pourrais rajouter le gardien Jesper Wallstedt, des joueurs qui sont à peu près tous. Il y a des joueurs qui ont des qualités, il y en a d'autres qui ont des défauts, puis là, c'est de savoir qu'est-ce que tu préfères entre les deux. Puis c'est là que tu tranches. C'est assez difficile, donc. S'il est repêché plus haut, est-ce que ce serait comme trop tôt? Je pense que c'est tout simplement une question de préférence. Il pourrait être repêché 3e, il pourrait être repêché 10e également.
Ben, il pourrait être repêché premier aussi encore. C'est ça l'affaire. Mais c'est parce que, tu sais, chaque année, déjà, le repêchage est plus imprévisible qu'on l'anticipe à la base parce qu'on oublie que les listes qu'on voit circuler dans la sphère publique, ça ne veut pas dire que ces listes-là ressemblent aux listes des équipes de la LNH. C'est ça qui arrive. Parce que, et tu peux même regarder, souvent, même maintenant, au premier tour, on voit des joueurs comme Shinnakov sortir alors qu'ils n'étaient même pas dans les listes qu'on voyait publiquement. Et si je regarde ça honnêtement, là, Ken Johnson pourrait sortir premier au total. Luke Hughes pourrait sortir premier au total. Peut-être McTavish aussi, Beniers aussi, Gunter aussi. Tu sais, t'as plein de joueurs qui pourraient sortir au premier rang. Fait que ces joueurs-là, s'ils peuvent sortir au premier rang, ils pourraient sortir au deuxième rang, ils pourraient sortir au troisième rang aussi, ils pourraient sortir au quatrième rang aussi, c'est all over the place cette année. C'est encore plus prononcé que les années précédentes. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas des paris mis au jeu sur le repêchage cette année. Vous allez perdre votre argent. C'est pas compliqué. Là.
Il y a un adage qui dit que les gens qui sont affectés à la centrale de recrutement, ce sont les recruteurs qui ont échoué, entre guillemets, parce que s'ils étaient bons, ils évolueraient pour les équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc, il faut en prendre un peu avec un grain de sel, la centrale de recrutement. C'est sûr que ça ne fait pas foi de tout, mais ça donne tout de même une idée de l'ensemble des joueurs, où est-ce qu'ils se classent.
C'est une information. C'est une information que tu vas faire.
Il faut le prendre comme ça. La liste de la centrale de recrutement, c'est un beau point de référence pour les partisans. Je vais prendre un exemple. Chaz Lucius, qui est 12e, ben là, si tu n'as aucune idée c'est qui Chaz Lucius, mais là, tu vois que dans la liste, il est 12e, qui a joué pour le programme américain des moins de 18 ans. Là, tu te dis, ah, OK, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. C'est un joueur de 6 pieds et 1 pouce. Ça donne une idée. Tu le sais au moins que c'est pas un espoir de quatrième tour, c'est un espoir de premier tour qui est assez bien classé. Puis la centrale de recrutement, comment il faut le voir, ce que j'ai toujours aimé dire, c'est que c'est un peu comme une 32e, là, bientôt 33e équipe. Eux, c'est leur liste. Eux, c'est ce qu'ils choisiraient. Mais c'est ça, comme Nick vient de dire, les Devils du New Jersey, je prends l'exemple des Devils, eux, ils ont peut-être une liste complètement différente. Peut-être
que j'ai pensé à ça, là. Peut-être que William Eklund pourrait être repêché dans le top 3 aussi, là.
Oui. Ah ouais, là, on parle pas des Européens encore.
Oui, non, mais là, au repêchage, là, je veux dire, on sait que tout ça, c'est mélangé. Puis Eklund aussi, dans cette conversation-là, je l'oubliais presque, là.
Ouais. William Eklund pourrait très, très bien être choisi au premier rang, parce que je trouve que dans le repêchage, c'est lui qui a le mieux le performé dans un calibre plus supérieur que les autres. La Ligue élite de Suède, là, c'est probablement la 3e ou la 4e meilleure ligue au monde. C'est pas rien.
Ben, c'est ça.
Et si on se tourne du côté de la LHJMQ, on a une chose de parler de Chaz Lucius au 12e rang, mais au 13e rang, on retrouve le premier Québécois, Xavier Bourgault. Nick, satisfait de son rang de classement à 13, tu trouves que c'est bien placé?
Ben, moi, je pense que le fait que la LHJMQ a été plus scouté que toutes les autres ligues, ça va avantager ces joueurs-là. 13e rang, ça me semble un rang qui est juste, mais je ne le placerai pas plus haut que ça non plus, par contre.
Moi, Xavier Bourgault, ce que je trouve, là, c'est un joueur qui est... dans ce repêchage-là, c'est un joueur qui est assez polarisant. Ouais. Vous savez, les gars, on a Alexandre Régimbal qui travaille pour la LHJMQ, un de nos bons amis qui vient faire des tours de temps en temps sur le podcast. Puis ça arrive que je parle régulièrement avec lui des espoirs de la LHJMQ. Puis pour vous montrer à quel point c'est polarisant, là il commence à me parler de Xavier Bourgault, qu'il avait vu jouer avec les Cataractes. Il me dit, moi, je trouve qu'il m'impressionne pas nécessairement, Xavier Bourgault. Il me laisse sur mon appétit. Puis moi, je lui dis complètement le contraire. Non, moi, je l'adore. Moi, je trouve que son lancer, il est puissant. Dans les coins, c'est probablement un des, sinon l'espoir de la LHJMQ, le meilleur pour ressortir des coins avec la rondelle. Donc, ça vous montre à quel point là, il y a une énorme différence. Xavier Bourgault, là... Donc, ce qu'il faut lire un peu de la centrale, c'est que les qualités de Xavier Bourgault plaisent beaucoup, j'ai l'impression, aux gens de la centrale. Mm-hmm. Comme je viens de mentionner, là, probablement qu'au niveau de la LHJMQ, c'est assurément lui qui a le meilleur lancé. J'ai même entendu du Maverick Beau dire que c'est peut-être lui qui avait le meilleur lancé de toute la LHJMQ. Ça, on peut en débattre, là. Mm-hmm. Mais c'est une information intéressante quand même. Maintenant, je dirais que, par exemple, en séries éliminatoires, les Cataractes sont fait surprendre par l'Océanique et Xavier Bourgault, je dirais, au premier rang. C'est un joueur qui est assez déçu en série. Donc, est-ce que dans les moments... Je pense qu'il y avait une blessure aussi, là, mais est-ce qu'il est capable de performer dans les bons, dans les gros moments? Là, ça, c'est une interrogation que tu peux te poser. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait juste montrer que je pense que la centrale, eux, n'ont pas été effrayés par les défauts que Xavier Bourgault. Ils préfèrent davantage les qualités honnêtement exceptionnelles qu'il a, c'est-à-dire son lancer. Et dans les coins, je vous le dis, là, c'est pas très, très difficile pour lui de gagner ses batailles.
Alors, c'est vrai que ça a été plus difficile en série, mais il a quand même amassé là, 40 points en saison régulière. Donc, tout ça en 29 parties. Donc, tout de même, là, des bonnes statistiques là, pour Xavier Bourgault. Lui, qui est classé au 13e rang. On se transporte 4 ans plus tard, c'est Zachary Bolduc qui se pointe 17e rang. Le joueur de l'Océanique, ça me semble fair. Est-ce que vous êtes en accord avec
ça? C'est drôle parce que moi et Marty, on en parlait justement au 10e étage de TVA hier quand on s'est croisés après la victoire des Canadiens. Puis on était assez d'accord. C'est parce que Zachary Bolduc, si tu fais la nomenclature de toutes ses habiletés, je te dirais qu'il y a pas mal tout dans son coffre à outils. Il y a un bon tir, il n'a pas une mauvaise vision du jeu, il y a un bon coup de patin, il y a un bon gabarit. Je veux dire, il est all around, il est assez bon. Mais il n'y a pas vraiment une qualité exceptionnelle qui lui permet de ressortir. On s'entend pour dire que ça va peut-être être un attaquant utile dans le top 9, mais est-ce que ça va être quelqu'un qui va pouvoir changer le cours d'un match? Je ne sais pas encore. Ça peut changer, mais pour le moment, j'ai de la misère à envisager ça.
Moi, comment je le vois, Zachary Bolduc, je pense que dans les espoirs de la LHJMQ, c'est lui qui a les meilleures chances de jouer dans la LNH. C'est lui qui est le plus de qualité que tu dis « OK, lui, c'est sûr qu'il joue dans la LNH. » Parce que dans les coins, il joue super bien. Capable de repérer ses coéquipiers, il a une bonne vision de jeu. Donc, ces aspects-là, s'il joue, par exemple, sur un troisième trio, qu'il applique l'échec avant, qu'il ressort avec la rondelle, puis qu'il alimente ses coéquipiers, ça se transpose super bien à la LNH. Travaille bien, va être capable d'appliquer de la pression sur l'adversaire. Ça va bien se faire, mais j'ai tendance à être d'accord avec Nick. Ce que j'ai hâte de voir dans son cas, c'est s'il est capable de produire, sortir du lot offensivement, si tu veux. Tu sais, dans la même catégorie que des Dawson Mercer, des Hendrix Lapierre, des Jacob Pelletier. C'est ce que j'ai hâte de voir dans son cas. On verra bien dans la prochaine ou dans les deux prochaines années. Je pense que c'est ça dans son cas. Est-ce que c'est un joueur de top 6 ou un joueur de top 9? C'est là la question.
C'est ça. Je vais regarder un match de Zachary Bolduc, puis je ne vais pas dire qu'il a joué un mauvais match. Je vais dire « Ah, bon petit match de Zachary Bolduc, je l'ai bien aimé ce soir, mais jamais je vais dire « Ah, il volait sur la patinoire, hein, il était écœurant, il était dynamique. Chaque fois qu'il était sur la glace, il y avait quelque chose qui se passait. » C'est pas ça que je vais dire. Je veux pouvoir dire ça avant de pouvoir lui projeter un avenir certain sur un top 6. Là.
Mais lui, tu disais qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais je te dirais que son lancer est quand même assez...
Ouais, ouais, non,
c'est quelque chose qui se démarque.
Il plus de la moyenne, c'est clair. Ouais.
Tu sais, puis en fait, moi, je crois qu'il va jouer dans la LNH,
c'est pratiquement... Ah ben là, comme c'est même pas une question, quasiment. Je peux jamais le dire avec certitude, mais les chances sont excellentes.
Exact. Mais lorsqu'il va être dans la LNH, je pense que son lancer peut donner des difficultés aux gardiens adverses. Pas de là à marquer peut-être 30 buts, mais pour être capable de faire peur aux équipes adverses, je pense que ça peut être très bon.
Ouais.
On se posait la question à savoir si Zachary Leroux sera repêché au premier tour. Ben, on le sait, c'est un peu bobble. Pour l'instant, la centrale a penché pour le oui, plus qu'ils l'ont classé. Ben, ça reste que avec les Européens qui rentrent en ligne de compte, là, ça fait brouiller les cartes. Là. Mais pour l'instant, il est classé 30e. Donc, est-ce qu'il sortira au premier tour ou non? Ça reste à voir. Mais Zachary Leroux, ce tailier gauche de 5 pieds 11, 30e. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il va sortir au premier tour?
Ben, c'est curieux quand même comment la conversation a évolué parce que il me semble qu'au début de la saison, je le regardais jouer et il était dans la conversation pour le top 10, le top 15 du repêchage et là, on se demande s'il va être repêché au premier tour. Est-ce qu'on l'aurait pas un peu overscouté? Est-ce qu'on se gratte la tête un peu? Parce que, je veux dire, Zachary Leroux, là, c'est un joueur avec des qualités alléchantes, là, selon moi. Là. C'est le gros attaquant de puissance qui a beaucoup d'habiletés naturelles.
Ben, puis en plus, puis moi honnêtement, Zachary Bolduc, je l'adore. Selon moi, c'est le meilleur espoir de la LHGMQ. Je le place devant les Bourgos et Bolduc parce que dans le repêchage, là je parle de tout le repêchage 2021, c'est probablement le joueur de type Brad Marchand, Brady Kachuk de ce repêchage-là.
Ben oui, il y a du grit là.
Exact. C'est un joueur qui est constamment dans le visage de l'adversaire, qui est constamment en train de leur faire perdre les pédales. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu peur à certaines personnes. Là. C'est ça qui est très polarisant. Oui, il joue super bien. Oui, il y a des feintes incroyables. Tu regardes un match, puis c'est impossible que tu le manques. Là. Continuellement en train de déjouer les adversaires. Mais je pense que ça fait peur un peu. Là. Je vois ça de plus en plus dans certains rapports. Les gens ont peur de son manque de discipline. Lui, il a eu, on le sait, là, les bagarres ne sont pas nécessairement permises dans la LHGMQ. Il a un copie de 4 suspensions pour des bagarres. Et là, ça, je crois que ça fait peur à certaines personnes de dire « Bon, il ne sera pas capable de se contrôler dans la LNH. C'est toujours quelqu'un qui va être suspendu, qui va nuire à ton équipe avec des mauvaises punitions. » Oui, peut-être. Mais moi, j'ai tendance à penser que si tu lui fais comprendre qu'il doit être plus discipliné, ça va être correct. Et ben, les bagarres, dans la LNH, tu as le droit de te battre. Donc ça, c'est pas un problème. Là, il va être capable de déranger l'adversaire, là, puis leur faire perdre les pédales, puis en plus, il va être capable d'apporter de l'attaque. Ces joueurs-là, moi, je vais toujours les placer un petit peu plus haut parce que c'est la game psychologique. Si tu veux, tu veux déranger l'adversaire, et tu peux faire complètement perdre les pédales à des joueurs vedettes, à les déranger. Ben, je pense qu'on l'a vu dans les dernières séries, dans les séries en ce moment. Là, donc.
Ah, puis, je l'ai dit quand même à plusieurs reprises, là, c'est toujours plus facile de retenir un joueur que de lui pousser dans le dos. J'aime pas mal mieux avoir un joueur que je dois prendre à part et dire « calme-toi un petit peu, là, je pense que tu nous nuis plus que d'autres choses en ce moment », que de « allez, motive-toi, lâche pas, continue, pousse ». Ça, je trouve que c'est beaucoup plus enrageant d'avoir un joueur qui a constamment besoin de se faire dire quoi faire, tandis que ben, c'est sûr qu'à Montréal, dans les dernières années, on a eu Max Domi là, qui, à l'occasion, les fils pouvaient se toucher puis ça pouvait être difficile pour l'équipe, là, mais ça reste que c'est beaucoup mieux d'avoir un joueur qui a de la drive, qui a de l'énergie et qui veut faire une différence, contrairement au joueur qui a beaucoup de talent, mais que c'est un peu plus difficile là, pour que le moteur se mette en marche. On en a parlé beaucoup dans les derniers podcasts, principalement parce qu'ils sont en finale, là, mais Justin Robida, qui lui aussi sera repêché là, en juillet prochain, mais lui, il est étonnamment très bas, Nicolas, il se pointe au 47e rang. Est-ce que ça t'a surpris?
Ben, oui, ça me surprend, je le trouve assez bas. Bon, l'affaire avec Robida, c'est que c'est un petit joueur qui joue avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, du caractère, donc j'ai beaucoup de respect pour sa game, mais Je pense que c'est la raison pour laquelle sûrement il a descendu. Est-ce que, tu sais, quand tu es un petit joueur, tu dois avoir un talent vraiment hors norme quand même pour jouer dans la LNH. C'est un gars qui a du talent, OK? Je veux dire, détrompez-vous, là. Mais est-ce que son talent il est à un niveau assez élevé? C'est juste ça que je me demande.
Moi, je pense que offensivement, pour le match offensif, il n'est pas assez talentueux.
Ben, pour c'est être peut-être sur ça le dilemme. Top-set.
Mais ouais. Par contre, Justin Robineau, moi, selon moi, c'est un joueur qui a des chances très élevées de jouer dans la LNH, notamment, et on ne se le cachera pas, son père, c'est Stéphane Robida, là, il a joué dans la LNH pendant plusieurs années. Donc, Justin Robida, il a déjà fréquenté des vestiaires de la LNH, il sait comment ça se passe dans les vestiaires de la LNH. Ouais. Il sait qu'est-ce que ça prend. Je me rappelle d'un Justin Robida qui avait 8 ou 9 ans, là, lorsque j'allais au tournoi à bout de souffle à Magog, puis je me souviens qu'il était toujours dans les environs de son père qui lui se préparait entre deux matchs pour s'amuser pour la bonne cause. Là. Mais tout ça pour dire que dans le cas de Justin Robida, oui, au niveau offensif, je pense qu'il n'en apporte pas nécessairement, mais lui, sa qualité exceptionnelle, là, c'est défensivement. J'ai pas vu souvent dans ma vie là, des joueurs de 17 ans jouer aussi bien défensivement. Il est toujours bien placé, toujours d'accord. En train de couper des jeux, relancer l'attaque. Puis là, c'est là que ça se gâte là, dans la zone adverse, mais le côté défensif, là, je vous le dis, je pense qu'il serait déjà prêt à jouer. Seulement du côté défensif, je pense qu'il serait déjà prêt à jouer dans la LNH. Ça vous en dit long à quel point il est bon. Et j'ai hâte de voir présentement la finale de la Coupe du Président. Je pense que ça peut lui faire gagner des points. Et je m'explique, là, parce que Justin Robidon n'a pratiquement pas joué, mais justement, il a raté le match 1 en raison d'une blessure. Les Foreurs ont perdu. Revient lors du match 2. Honnêtement, il joue à peu près à 30% de ses capacités. Là. Il est clairement blessé, je ne dirais pas où, là, mais il est clairement blessé. Ça l'affecte vraiment son jeu, notamment dans les coins. Bizarre, mais malgré tout, quand même quelques bons jeux défensifs, les Foreurs gagnent le match 2. Lors du match 3, dispute la première période, qui s'est quand même bien passée pour les Foreurs. A réussi un beau jeu en première période pour priver les Tigres d'une chance de marquer. Quitte le match en deuxième période. Qu'est-ce qui se passe en troisième période? Les Tigres reviennent de l'arrière puis gagnent en prolongation. Je ne suis pas en train de dire que c'est directement relié à l'absence de Justin Robida, mais clairement, tu aurais eu besoin de ce joueur-là en fin de match pour protéger l'avance, qu'il aurait été capable de couper des jeux. Et ça, je pense que ça peut lui faire gagner des points dans le sens où, écoute, il est tellement important à son équipe que lorsqu'il n'est pas là, c'est beaucoup plus difficile pour les Foreurs qui sont, je le répète, la meilleure équipe probablement sur papier de la LHGMQ.
Ouais, puis on parle beaucoup des Foreurs qui n'ont pas nécessairement eu d'adversité parce qu'ils ont tellement dominé tout le monde. Jusqu'à la finale, ils avaient balayé toute leur série, étaient sur une incroyable lancée, une séquence de victoires absolument hallucinante. Tu as une avance de 3 buts, il reste moins de quoi, une dizaine de minutes à la troisième période. Tu accordes 2 buts dans les dernières 65 secondes de la troisième période pour faire 3-3. Donc, je pense que c'est une équipe qui, tu le dis, Marty, était tellement forte sur papier que peut-être où est-ce qu'on la fragilise un petit peu, ça peut s'effriter. Et un gars comme Justin Robida, qui se démarque par son aspect défensif, aurait clairement été utile sur la patinoire. Mais ça me surprend que tu dises qu'offensivement, c'est plus difficile parce qu'il a quand même 1 point par match cette saison. Je comprends qu'il joue avec un club boosté, mais il a quand même 1 point par match à son année de repêchage. C'est pas mauvais. Là.
Mais c'est ça, c'est ça. Comme tu viens de dire, il joue quand même avec d'excellents joueurs. Là. Son ailier, c'est Nathan Légaré. Nathan Légaré a d'excellentes séries éliminatoires. Il a un lancé dévastateur.
Donc, il a joué avec Jacob Pelletier aussi en début de saison. Tu sais, fait que quand tu vois un joueur qui est censé être repêché au premier tour jouer avec des joueurs de ce calibre-là, tu t'attends quand même à une production plus élevée que ça. Puis 1 point par match, je veux dire, c'est bon, là, mais tu sais, on parle des meilleurs espoirs, là, des espoirs pressentis à jouer dans la LNH. Tu as des attentes qui sont encore plus élevées. Là. Les attaquants talentueux qui sont repêchés au premier tour, d'habitude, font plus que ça. On parle de 1,5 points par match environ comme rendement.
C'est pas un reproche envers les joueurs de la LHMQ, c'est le même pour toutes les ligues juniors.
Ben, c'est ça.
Il y a une différence entre être capable de... On se cache. Supposons un joueur qui a 60 points dans une saison de la LHGMQ, mais les défenses sont un peu plus laborieuses, les gardiens sont moins talentueux que dans la LNH. Donc, sur les 60, il y a peut-être 10 ou 15 points là-dedans qui ont été obtenus parce que le gardien n'a pas forcément fait l'arrêt ou il y a des erreurs plus défensives. Mm-hmm. Alors que si ce joueur-là débarque dans la LNH, ces jeux-là vont arriver, c'est peut-être pas 15, ça va être 3 ou 4. Donc là, c'est pourquoi la production diminue un peu. C'est pourquoi, des fois, il faut que tu prennes avec un grain de sel le fait qu'un joueur a obtenu une saison de 90 points. Et d'autant plus que tu peux l'obtenir à 19 ans. Et ben, dans le fond, tu es plus âgé que tout le monde. Là, donc, faut en prendre et en laisser. Ça peut être bon comme ça peut être un bon et un mauvais indicateur.
Un autre joueur de la LHGMQ s'est glissé dans le top 30 de la liste nord-américaine. Ce n'est pas un Québécois, mais c'est Evan Naz qui est un défenseur avec les Remparts de Québec. Marty, c'est un joueur que tu aimes bien?
Ouais, ben honnêtement, dans la liste, là, c'est probablement un des joueurs que je suis. Tu sais, j'avais placé Ken Johnson. Et puis le deuxième que je suis très heureux de voir haut comme ça, c'est Evan Naz. Evan Naz, je vous dirais que si ce joueur-là avait moindrement de talent offensif, c'est ça son problème. Là. À l'attaque, c'est plus la. Pas que c'est laborieux, là, mais c'est ordinaire. Il apporte pas grand-chose. Mais s'il avait ça, je vous le dis, ce serait un joueur top 10 dans le repêchage. Parce que tout le reste. Est super bon. Il a un bon gabarit, il a un excellent coup de patin, son hockey IQ est vraiment excellent, voit constamment le jeu, 3 ou 4 secondes devant tout le monde, et n'a pas peur de se précipiter en attaque pour couper des jeux, pour réduire l'espace à l'adversaire. Il est vraiment, vraiment excellent, puis avec son gabarit, il se débrouille également bien dans les coins. Je vous le dis, si c'était... Donc, ça vaut la peine, je pense, de prendre un pari sur ce joueur-là au deuxième tour, parce que selon moi, c'est certain qu'il a tous les attributs pour jouer assurément sur une troisième paire de la LNH. Mais si en plus, il est tellement intelligent que moi j'aurais le goût même de dire top 4, mais si en plus il est capable de se développer un peu plus offensivement, moi je vous le dis, ça pourrait être un des vols du repêchage, honnêtement.
Ce serait intéressant. Il n'y avait pas eu une controverse avec lui. Il n'avait pas été repêché, talent USHL, et revenu avec Québec, comme on le voit souvent là, dans la LHGMQ. Je pense qu'il avait été repêché par Val d'Or, si je ne me trompe pas.
Ouais, ben c'est ça. C'est un choix de premier tour des Foreurs de Val d'Or en 2019. A refusé de se présenter à Val d'Or. Donc, il est allé jouer au niveau de la USHL. Et il a été réadmissible au repêchage de la LHGMQ. Là, les Remparts de Québec l'ont sélectionné. Et là,
l'effet Patrick Roy.
L'effet Patrick Roy, tout à fait. C'est ouais. Ben, qui on ne peut pas le blâmer nécessairement non plus. Là. C'est
non. Attends. C'est non. Ah, ben c'est ça la vie, hein. Les riches s'enrichissent, puis c'est une roue qui tourne.
Et les riches s'achètent du Uber Eats. bon, on le sait, Sherbrooke n'a pas nécessairement connu là, la meilleure saison dans la LHGMQ cette année. Là. Ils se sont classés 16e sur 18e. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur le classement final de Joshua Roy? Parce que je le regarde, là, il est présentement au 66e rang dans la liste de la centrale. C'est pas très haut. Est-ce que ça pourrait être en raison que son équipe a connu des difficultés cette saison?
Ben, son équipe a connu des difficultés. Je dirais que Joshua Roy aussi a connu des difficultés par moment. Il y a un manque de constance dans son cas, parfois un manque d'implication. Oui, il a du talent, mais c'est pas le talent lui seul suffit pas parfois. Je sais pas ce qu'en pense Marc.
Moi, j'ai l'impression que sans avoir parlé à des gens, là, mais j'ai l'impression que la controverse qu'il y a eu avec lui autour de la période des fêtes lui a nu un peu. Tu sais, demander une transaction à 17 ans, puis on connaît pas les détails de tout ça. Il y a probablement, Joshua Roy a probablement d'excellentes raisons de demander cette transaction-là. Mais reste qu'un joueur de 17 ans qui demande une transaction, surtout lorsqu'il est avec les Sea Dogs de Saint-Jean, une équipe qui était censée connaître quand même, ça a été une saison difficile pour eux quand même. Là. Mm-hmm. Mais c'est une saison, tu sais, c'est une équipe qui se voyait aller quand même assez loin en série. Là, c'est un. Tu sais, je pense envoyer un mauvais message. Bon, de 17 ans, veux-tu déjà forcer la main de ses dirigeants? Donc, j'ai l'impression, est-ce que ça lui nuit? J'ai hâte de voir. Moi, personnellement, je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup trop bas. Oui, parfois, c'est l'effort peut-être pas tout à fait constant, mais en même temps, moi, dans les matchs, je le vois régulièrement gagner des batailles dans les coins. Il est continuellement en train d'arriver en repli défensif. Puis il fait d'excellentes relances. Moi, j'ai vu une grosse différence entre le Phoenix d'avant Joshua Roy, qui perdait pratiquement tous les matchs. Et là, vous allez me dire que Samuel Lavaille n'était pas là, mais quand même. Puis t'as après la transaction de Joshua Roy, où là, honnêtement, le Phoenix de Sherbrooke a joué de bien meilleurs matchs et en série contre les Saguenayens. Moi, je vous le dis, Joshua Roy a probablement été le meilleur joueur du Phoenix. Et le Phoenix, là, c'est là, ils sont fait balayer en 3, ça paraît pas nécessairement sur la feuille. Mais le Phoenix a été beaucoup plus combatif, a donné beaucoup plus de fil à retordre aux Saguenayens qu'on pouvait s'y attendre. Et moi, je trouve qu'un des éléments clés de ça, ça a été Joshua Roy, justement parce qu'il est très complet. Il est capable d'être patient en zone adverse lorsqu'il est en avantage numérique. Il a un bon gabarit, il gagne beaucoup de batailles dans les coins. C'est un joueur qui, en repli défensif, je viens de le dire, est vraiment efficace. Donc, moi, je trouve qu'il y a un pari intéressant à prendre sur ce joueur-là. Et moi, je vous le dis, il y a peut-être un potentiel de top 6 à ce niveau-là parce que son coffre à outils est très complet. Il est bon pas mal partout. Là.
Ben, moi, c'est son début de saison que j'avais moins aimé. Mais là, tout le temps, il me dit que dans le crunch time, dans les séries, c'est démarqué. Écoute, il faudrait peut-être que je regarde d'autres vidéos dans ce cas-là pour avoir une opinion plus éclairée parce que je ne sais pas si tu l'avais vu un peu en début de saison, Marty, mais parfois, son implication n'était pas toujours là. Puis je trouvais qu'il manquait de constance un peu.
Mais je me demande, tu sais, sans dire qu'il est overscouté, mais j'ai l'impression que... Tu sais, c'est le joueur qui avait eu une excellente saison. Il a été sélectionné premier au total. Là, j'ai l'impression qu'on s'attendait à une saison à la Alexis Lafrenière.
Ouais, je comprends. C'est vrai.
Tu sais, saison à la Sidney Crosby, une grosse saison. Finalement, ça n'a pas nécessairement été le cas, même qu'honnêtement, son année de 16 ans a été décevante. Honnêtement, je me rappelle, là, il n'était pas si impressionnant que ça. Tu avais des James Malatesta qui étaient bien meilleurs. Là, à 17 ans, je pense qu'il y a peut-être eu une certaine progression. Tu sais, on verra bien, mais moi, en tout cas, il y a beaucoup d'attributs que j'aime beaucoup chez les joueurs-là, parce que je trouve qu'il est excessivement complet. Là.
Je te pose la question, Marty. Bon, évidemment, on ne fera pas le tour de tous les joueurs là, qui ont été scrutés à la lutte là, par la centrale de recrutement, mais si tu as un coup de cœur là, chez les Nord-Américains, tu porterais ton dévolu sur quel joueur?
Moi, mon coup de cœur, là, c'est au 43e rang. C'est le défenseur Ryan Ufko. Ryan Ufko, là, c'est un défenseur de plus petit gabarit. Là. Il joue avec le Steel de Chicago dans la USHL. Le Steel de Chicago, là, pour faire une histoire courte, là, c'est les Knights de London de la USHL. Ils ont les gros revenus, sont capables là, d'attirer pas mal de bons joueurs. Là, et là, anecdote comme ça, mais ils ont sélectionné Shane Wright lors du dernier repêchage de la USHL. On s'entend que c'est vraiment un pari au cas où la OHL ne joue pas, mais quand même. Mais ils sont capables d'attirer souvent des joueurs de haut calibre qui ont des profils assez intéressants. Puis lui, Ryan Ufko, c'était le défenseur offensif de l'équipe. Moi, j'ai vraiment adoré sa mobilité, tout simplement, son côté de corps arrière en avantage numérique. Je trouve que cette facette-là de son jeu ressort vraiment beaucoup. C'est très intéressant. Puis on le sait dans la LNH, je suis pas en train de comparer Adam Fox, mais on voit des défenseurs comme Adam Fox qui sont assez offensifs, qui pilotent l'avantage numérique. Je pense qu'il y a une place pour ces défenseurs-là. Et lui, honnêtement, dans ses qualités-là, il y a quoi vraiment d'exceptionnel. Moi, en tout cas, selon moi, c'est un joueur qui a d'excellentes qualités, qui est un coup de cœur. Évidemment, ce genre de défenseur-là, il y a toujours un risque au niveau du jeu défensif. Ça, on va voir comment ça va se corriger. Mais moi, en tout cas, Ryan Ufko, j'ai vraiment adoré. Je sais que Nick, tu avais vu un peu, parce que je sais, Sean Farrell a joué pour le Steel de Chicago. Je sais pas si tu l'avais surveillé un peu, Ryan Ufko. Tu l'avais-tu vu un peu ou pas?
Ben oui, j'avais aimé sa game, je te dirais. Mais de là à dire, tu sais, je veux dire, je l'avais vu, puis j'avais aimé ce que j'avais vu, mais j'ai pas pris des notes plus exhaustives que ça.
Ouais. Ah, puis c'est normal, tu sais. Sean Farrell, il a été excellent, puis il y avait Matthew Coronato.
Hey, Coronato, qui est haut aussi dans le classement. Lui, je l'avais adoré aussi. Là.
C'est ça, tu sais. Donc, si je peux comprendre aussi qu'on a. Puis, tu sais, il y a Josh Doan également qui est très bon, le fils de Shane Doan. Eux, c'est des joueurs que. Ben, c'est normal de peut-être porter plus d'attention à eux qu'à Ufko aussi, là, je peux comprendre.
Si on se transpose là, du côté des Européens, là, on a fait beaucoup la centrale en Amérique du Nord, là, puis c'est tout à fait normal. Il y a quand même quelques sujets intéressants du côté des Européens. On en a parlé un peu tout à l'heure. Là, William Eklund qui arrive premier, Simon Edvidsson qui avait eu un tournoi des U18 en Dante, ça avait très bien terminé, arrive deuxième. Marty, tu veux nous parler d'un joueur un peu plus obscur qui arrive au 20e rang.
Ouais, ben moi, ben tu sais, je parlais, quand je t'ai soumis les noms, là, j'avais donné deux coups de cœur, il y avait Ufko. Puis le deuxième coup de cœur, moi, que j'ai, c'est Ville Koivunen. Ville Koivunen, là, pour ceux qui ont surveillé le mondial des moins de 18 ans, il jouait avec la Finlande. Il jouait sur le premier trio, là, il était souvent je me laisse Samu Tuomala qui a été. Qui s'est démarqué avec son lancé. Lui, c'est pas mal. C'est pratiquement le Cole Caulfield du repêchage 2021, si on veut. Là. Mais Koivunen, ce que je trouve intéressant, c'est un joueur qui est vraiment, vraiment très complet. C'est un joueur qui est justement un bon hockey IQ, voit très, très, très bien le jeu se dérouler, prend toujours... Moi, je crois qu'il prenait toujours, toujours les bonnes décisions. Puis tu regardes son gabarit, là, un peu dans le même style que Ken Johnson. 6 pieds, mais 165 livres. Lui aussi, il a de la place à prendre une vingtaine de livres, puis peut débarquer dans la LNH à 185, 190, puis garder ses qualités. Moi, ce que je revois dans les listes, c'est qu'il... Et là, il a tendance à monter. Je pense que McKinsey, le 31, là, c'est très bien, mais c'est ça. Moi, je pense, là, on parlait des gars, des joueurs qui n'ont peut-être pas été vus autant que par le passé en raison de la COVID. Je pense qu'un joueur comme Ville Koivunen pourrait devenir un choix de deux ou troisième tour, là, puis devenir un vol parce que soudainement, on ne l'avait pas vu assez jouer. Puis tu regardes ses statistiques, c'est bon. Là, c'est le troisième pointeur de la Ligue finlandaise des moins de 20 ans. Donc, le potentiel offensif est là, il est capable d'apporter des statistiques en plus de performer sur la glace. Ça a été le deuxième meilleur pointeur là, de la Finlande. Moi, je trouve que c'est intéressant. Là. Super complet, bon coup de patin, puis un bon sens du jeu, honnêtement.
Moi, ce qui m'a frappé dans la liste européenne, là, puis c'est quelque chose que je voulais surveiller, c'est le rendement de Isaac Rosén par rapport à celui de son compatriote Fabian Liesel, parce que j'ai l'impression que Liesel, je me souviens jamais comment on prononce
son nom.
Liesel. Ouais. J'ai l'impression que Liesel a plus de talent, mais Rosén a plus de cœur. Et la centrale a finalement tranché. Ils ont mis Rosén 8e et Liesel 9e. Donc, j'étais content de voir que Isaac Rosén était devant son compatriote suédois parce que on l'a vu lors du dernier championnat des moins de 18 ans. Rosén, quand son équipe se faisait dominer, c'était un des joueurs qui ressortait, qui continuait à pousser, qui tentait de créer quelque chose, tandis que Liesel, lui, s'effaçait. On le voyait plus, jouait beaucoup en périphérie, tandis que quand le match était serré, là, on voyait ses habiletés ressortir. Donc, j'étais content de voir que la centrale a mis Rosén devant Liesel. Je pense que ça fait pas mal le tour là, pour la centrale. Bon, évidemment, on en reparlera au courant des prochains podcasts, mais il y a d'autres sujets qui nous intéressent. Vous vous rappelez de l'harceleur à Montréal, ce joueur de centre que finalement Marc Bergevin avait transigé aux Capitals de Washington en retour de deux choix de deuxième tour. Un de ces deux choix, Joni Ikonen. Le Canadien a finalement coupé les ponts avec cet espoir Ikonen qui avait été sélectionné en 2017. C'est dommage pour Ikonen parce qu'il y avait quand même un beau potentiel là, pour ce jeune joueur de centre, mais malheureusement, les blessures ne l'ont pas lâché au courant des dernières années. Je regardais ses statistiques là, un peu plus tôt. Il n'a joué que 36 parties depuis la saison 2018-2019. Donc, le Canadien qui, malheureusement, dans un système où tu as seulement 50 contrats, tu n'as pas le choix. L'espoir Joni Ikonen n'est plus avec l'organisation montréalaise.
Ben, moi, je trouve ça dommage parce que durant ce repêchage-là, Joni Ikonen, je trouve que c'est une des sélections que j'avais le plus aimé du tricolore. Je trouve qu'il avait vraiment un beau potentiel cette année-là. Mais malheureusement, c'est des blessures qui ont vraiment ralenti, miné son développement, franchement, parce que je trouvais qu'il allait dans la bonne voie. Si je ne m'abuse même dans la Liga, c'est-tu l'an passé ou l'année d'avant, il avait pas disputé beaucoup de rencontres, mais il y avait près d'un point par match. Puis là, après, il s'est blessé à nouveau. Ça a encore une fois cassé son élan. J'ai de la misère encore là, il est revenu cette saison puis c'est plus le même joueur. Je trouve ça dommage, mais je comprends absolument la décision des Canadiens.
Bon, ben, écoute, ça fait partie de la... C'est le côté plate qui peut arriver parfois avec des espoirs. Tu peux pas prévoir les blessures. Ça, c'est quelque chose d'impossible à prédire. On a quand même pris une chance. Moi, honnêtement, Joni Ikonen, à son année 17 ans, j'avais adoré son championnat mondial des moins de 18 ans. Et un excellent lancer. Là. C'est un joueur offensivement qui en donnait beaucoup. Là. Un bon moteur, si tu veux. Là. C'était quelque chose d'intéressant. Je trouvais que c'était un des bons choix cette année-là des Canadiens, là, de tout le repêchage qu'ils ont fait. C'était leur choix le plus intéressant. Mais maintenant, après ça... Puis tu sais, tu regardais son profil, c'est quand même un joueur qui a joué avec Frölunda. Tu sais, t'en parles souvent, Nick, t'aimes beaucoup Frölunda, le modèle de développement qu'ils apportent. Ben lui, il était avec Frölunda, même si c'est un Finlandais, là, ça fait penser un peu à Arturi.
Ouais, ben c'est ça. Mais il est allé jouer en Finlande après, lui. C'est ça le truc.
Mais c'est ça. Là, par la suite, là, il y a eu les blessures qui ont été un peu plus difficiles. Là, c'est là que ça s'est gâté. Puis malheureusement, c'est dommage, là, mais écoute, c'est de l'année 2019-2020, il l'a manqué au complet en raison d'une blessure sur son année de 20 ans. Il y a des années que tu ne peux pas nécessairement te permettre de manquer.
C'est ça. Exact. Puis en 2018-2019, 10 points en 13 matchs, 5 buts. Encore une fois, se blesse encore. Là. Je veux dire, je trouvais qu'il allait dans la bonne direction et que ça allait faire un bon petit joueur. Fait que c'est plate, mais bon, il y a plusieurs facteurs que tu ne peux pas contrôler. Hein.
Ça peut toujours arriver. Hein. Écoutez, je peux prendre l'exemple de... Écoute, on parle de Owen Power. Owen Power a une blessure majeure dans 4 mois. Je ne souhaite vraiment pas. Ouais. Il prend de ça dans 4 mois puis qu'il soit jamais capable de jouer dans la LNH. Puis on parle de Marco Rossi, c'est un peu la même chose. Son, en raison de ses complications liées à la COVID, ben c'est pas nécessairement un... Il y a quelque chose d'inquiétant. Ça fait partie du risque.
Oui, ça fait pitié. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive et c'est pas la dernière fois non plus. Puis si on regarde juste dans la banque d'espoir des Canadiens les dernières années, on peut penser à Noah Jolson, on peut partir à Martin Rivaille, on peut partir à Tim Boson. Tu sais, je veux dire, c'est arrivé quand même à plusieurs occasions que malheureusement, dans un concours de circonstances, l'espoir ne devient pas ce qu'il devient. Mais le Canadien n'est pas la seule équipe à qui ça arrive et c'est tout à fait normal. Là, est-ce que Ikonen va être en mesure de re-signer un contrat avec une équipe de Ligue nationale, j'en doute. Peut-être un contrat de Ligue américaine, mais d'après moi, il va jouer en Europe, va tenter de se refaire un nom, et là, on verra par la suite, mais ça risque d'être un peu difficile dans son cas.
Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la logique des joueurs européens, là, lui, il a maintenant...
Il a 22 ans.
C'est ça, il a 22 ans. C'est pas comme un joueur de 18 ans qui là, après les deux ans, n'a pas de contrat, puis peut retourner dans le repêchage. Lui, c'est un Européen. Après les 4 ans, ben... Tu sais, 22 ans, tu n'es plus admissible au repêchage. Donc, lui, tout simplement, devient joueur autonome. Il a intérêt, justement, à continuer d'essayer de jouer au niveau de la Liga finlandaise, de performer. Puis là, à un moment donné, si ça débloque, souvent, c'est avec des bonnes performances au championnat du monde. Là, lorsque tu arrives au championnat du monde et que tu performes contre des joueurs de la LNH, là, souvent, tu attires des regards vers toi, tu négocies un contrat avec les 32 équipes. Là, ça va passer par là pour lui. Mais malheureusement, c'est un call à l'Angelo Esposito. Malheureusement, là, un joueur qui a été victime des blessures, tout simplement.
Pas de contrat pour Ikonen, mais un contrat pour Cédric Desruisseaux. Et ça, c'est drôle parce que on le sait, on est au Québec. Les nouvelles concernant le Canadien de Montréal, ça prend toujours une proportion énorme. C'est majeur, c'est partout. Mais celle-là, j'ai l'impression que ça a passé un petit peu sous le radar.
Ouais,
j'ai l'impression
que ça a pas été beaucoup médiatisé. C'est plate un peu. Parce que le Canadien, ça a été très médiatisé. Je veux dire, le fait qu'on n'a pas repêché beaucoup de Québécois dans les dernières années. Mais quand ils en embauchent un, ben encore faut-il le couvrir aussi et donner de l'attention médiatique à ça pour justement ben, niveler le terrain un peu. Là, je veux
dire. Et on parle quand même du meilleur pointeur et du meilleur buteur de la dernière saison dans la LHJMQ. Je regarde ses chiffres. Il a fait 78 points en 40 parties, dont 42 buts. Avec les bon, vous allez me dire que oui, il joue avec les Islanders, il y a les circonstances COVID qui font en sorte qu'il affrontait peut-être des équipes qui étaient un peu plus faibles. Oui, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Mais malgré tout, meilleur buteur, meilleur pointeur de la LHJMQ dans l'organisation du Canadien. Et honnêtement, on n'a pas vraiment entendu parler. Probablement parce que le Canadien est en série, le Canadien est déjà éliminé, ce serait une autre histoire. Mais quand même, je pense qu'il faut souligner le fait que Marc Bergevin a mis ce contrat pour un contrat de Ligue américaine avec le Rocket de Laval, le précisons-le, pour une saison, Cédric Desruisseaux.
Ben, c'est là que ça devient hyper intéressant, je trouve, l'association avec Trois-Rivières là, pour la filiale ECHL l'an prochain. C'est que peut-être que Desruisseaux va se présenter au camp du Rocket et finalement, on va conclure qu'il n'est pas prêt pour jouer nécessairement dans la Ligue américaine, mais on peut acheter du temps en l'envoyant à Trois-Rivières. Et Trois-Rivières, ça va être une excellente plateforme de développement, je pense, pour ces Québécois-là qui sont un peu dans la fine ligne là, entre la AHL et la ECHL.
100% d'accord. Je te redonne la parole après, Marty, mais tu as totalement raison, Nick. Cette équipe-là à Trois-Rivières qui va sortir une autre étape supplémentaire dans l'échelon du Canadien de Montréal, ça va permettre de voir les jeunes talents québécois ici, de les garder ici. Et il y a un attrait de jouer dans ta province et de ne pas avoir à t'expatrier un peu partout à travers l'Amérique ou les États-Unis. Fait que je pense que ça va faire une différence majeure et il y aura plus de Québécois dans le giron du Canadien dans les prochaines années, j'en suis convaincu.
Moi, ce que je m'interroge comme question par rapport à la situation de Cédric Desruisseaux, puis le parallèle est facile à faire parce qu'il y a eu une signature par le crunch de Syracuse une semaine avant. Je me pose la question, est-ce qu'on accorde moins d'importance aux joueurs lorsqu'ils jouent dans les Maritimes? Moi, j'aurais l'impression à dire là, que c'est peut-être pour ça qu'on en parle peut-être un peu moins de Cédric Desruisseaux, parce qu'il joue à Charlottetown. C'est un marché que c'est l'île du Prince-Édouard. Les gens du Québec n'ont pas l'occasion de le voir. Et là, c'est encore pire cette année là, parce qu'ils sont même... Ils ont joué les matchs à Shawinigan dans la bulle en demi-finale, mais sinon, on n'avait jamais joué au Québec. Donc, je pense que c'est encore pire. Je pense que la situation aurait été différente si ce joueur-là avait appartenu à l'Armada de Boinville-Boisbriand ou tout simplement, parce qu'il a joué avec les Voltigeurs de Drummondville il y a deux ans, là, ou s'il était demeuré à Drummondville. Je pense que ça aurait été différent, ce point de vue-là. Et là, je reviens à Sean Element. Sean Element, lui, il est à Victoriaville. Victoriaville, c'est entre Québec et Montréal, c'est beaucoup plus... proche, si tu veux, des gros marchés. Et là, lui, soudainement, on en parle davantage. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que c'est une des raisons peut-être qui explique pourquoi ça passe un petit peu plus sous le radar. Et pourtant, moi, je trouve que c'est une signature vraiment intéressante. Moi, Cédric Desruisseaux, même lorsqu'il jouait à Drummondville à 17 ou 18 ans, là, c'est un joueur que je trouvais vraiment intéressant. Un joueur avec assez de caractère, là, qui se présente quand même à tous les matchs, capable de déranger l'adversaire. Petit gabarit, là, ça c'est certain, c'est pas pour rien qu'il n'a pas été repêché, mais je trouve que ça vaut la peine de prendre un pari sur ce joueur-là, puis avec Joël Bouchard, qui adore les joueurs fougueux, tenaces, comme Desruisseaux, moi je trouve ça intéressant. Puis en plus, au niveau de l'intelligence du jeu, là, la créativité, ben c'est pas mauvais non plus. On peut s'attendre à ce que... Ouais. Moi, je pense que l'année prochaine, ça peut être un joueur pour le Rocket. Je suis pas certain que Toiré.
Ah non, puis je voulais pas qu'on pense que je l'excluais de facto pour le Rocket l'an prochain non plus. Je dis juste que le fun de savoir que, je veux dire, c'est quand même un joueur qui est dans bubble, là, il n'a pas été repêché. Fait que c'est le fun de voir que tu as l'option de l'envoyer à Trois-Rivières au lieu de l'envoyer dans une filiale qui t'appartient pas vraiment, qui est partagée entre plusieurs organisations. L'entraîneur ne sent pas la priorité de développer les joueurs de ton équipe à toi. Moi, j'aime ça le fait qu'il va avoir maintenant vraiment une plateforme de développement pour les Québécois à Trois-Rivières. Pour des gars comme Desruisseaux, c'est parfait. Puis on pourrait aussi souligner là, le fait que Toby Paquette-Bisson a signé un contrat avec le Rocket, un autre contrat. Là. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui cette année.
Marky, j'aimerais ça faire un petit bout de chemin sur ce que tu as dit par rapport aux équipes qui sont dans les Maritimes un peu plus oubliées. Admettons qu'ils jouaient pour Moncton cette année et qu'ils ont vraiment une année difficile, je comprendrais, mais le fait que les Islanders ont terminé premier au classement de la LGMQ, se sont fait éliminer par Victo dans les séries éliminatoires, on le sait, Victo mène présentement 2-1 dans la série finale, mais semble que les Islanders avaient quand même un aura autour d'eux cette année. Ça, tu trouves pas que cette équipe-là mériterait peut-être un peu plus d'attention malgré qu'ils jouent à Charlottetown?
Ben oui, t'as raison, là, un amateur de hockey aurait dû porter de l'attention aux Islanders de Charlottetown, mais je vais te retourner ça d'une façon, puis les gars, on a tous été dans la salle des nouvelles à TVA Sports, on a tous travaillé sur les bulletins de nouvelles, sur les faits saillants de la LHGMQ. Combien de fois on faisait des matchs des Islanders de Charlottetown, ou même des Moses d'Halifax, même si les équipes étaient dominantes, là,
moins on que les faisait, on les faisait quand elle allait jouer à Québec, qu'elle allait jouer à Blainville-Beaubriand.
Ou un mardi soir, où ce qu'il y avait... Ben, pas un mardi, parce qu'il y a des matchs de la NASH, là, mais un lundi où il n'y avait pas grand-chose.
Même à ça, on ne les faisait pas. Même à ça, on les faisait tout simplement pas. Honnêtement, je me souviens même... Ah oui, je me souviens d'avoir déjà fait. Mais très, très rare. C'est effectivement très rare.
Tu sais, la vérité, c'est tout simplement ça. Là. Même si, à moins que tu aies une super vedette comme Nathan McKinnon ou Jonathan Drouin, là, les équipes des Maritimes, malheureusement, même si c'est des bonnes équipes, passent beaucoup plus sous le radar. Là. Je peux me rappeler, par exemple, des Wildcats de Moncton une année, là, ils étaient allés pour la Coupe du Président. Ils avaient embauché des joueurs comme Gabriel Bourque, comme Philippe Dano. Philippe Dano avait été échangé des Tigres de Victoriaville aux Wildcats. Puis c'était une excellente équipe, là, mais ça passait davantage sous le radar parce que c'est Moncton, Nouveau-Brunswick.
Absolument.
Et ce n'est pas Chicoutimi où là, c'est un marché beaucoup plus
traditionnel.
Exactement.
D'ailleurs, je veux vous rappeler, là, c'est ce soir que se poursuit la finale dans la LHJMQ. Victoriaville mène présentement 2-1 dans la série contre les Foreurs. On peut s'attendre à ce que les Foreurs rebondissent là, après cette défaite crève-cœur. Je m'attends à une grosse performance de Val d'Or. Et je veux vous rappeler aussi, c'est demain qu'a lieu la loterie dans la Ligue nationale de hockey pour savoir quelle équipe obtiendra le premier choix au prochain repêchage.
On ne peut même pas appeler ça la loterie Owen Power. On peut appeler ça la loterie Clown, on peut appeler ça la loterie Hughes. C'est la loterie de tous les noms.
Honnêtement, c'était les Sabres de Buffalo. C'est peut-être la meilleure année pour perdre la loterie. C'était peut-être mieux de sélectionner 3 ou 4e et de ne pas te risquer à prendre le premier. Comme on dit tout à l'heure, Nick, là, par rapport à... Parfois, tu es chanceux de sélectionner 3 ou 4e. Là, ça s'applique mieux.
Absolument.
Alors, messieurs, je vous remercie. Un autre bon podcast et on se donne rendez-vous la semaine prochaine où on saura quelle équipe a mis la main sur la Coupe des Présidents et on pourra savoir si le Canadien de Montréal est toujours en vie, eux, qui disputeront des matchs en juin pour une première fois depuis très longtemps.
Ça fait longtemps. All right, les boys.
Salut tout le monde.